Fourche d'année par Jeanne Tilda, pseudonyme de Mathilde Stevens. L'armoire aux confitures. Ceci se passait à Nantes dans un vieil et aristocratique hôtel où ma sœur et moi, orphelins, étions élevés par nos grands-parents. Je me souviens de la chambre de bonne maman, des vieux portraits sombres, du rouge des rideaux qui nous rendaient tout roses, nous, les bambins. Dans un lourd cloisonné, sur une table en marqueterie, une grosse gerbe de fleurs jetait une note violente et gaie. Un fauteuil de velours supportait un chat endormi, si vieux que ses moustaches blanchissaient comme celles d'un général en retraite. La grand-mère s'était fait un nid au fond de cette immense chambre. Elle vivait dans un petit coin, abritée derrière un paravent de lac où un mandarin et une jeune chinoise allongeaient leurs petits pieds dans une jonque rose tendre. Sur une étagère, des bergers et des bergères en saxe minaudaient dans leurs habits bleu pâle, tandis que des marquises à paniers faisaient la bouche en cœur en agitant l'éventail. Sur les murs, des pastels exquis, presque effacés, des jeunes filles vaporeuses comme les Willis de la plaine, et enfin, le portrait de mon grand-père en colonel de cuirassiers. Bonne maman avait à ses côtés sa table à ouvrage, pleine de laine, car elle brodait toujours d'interminables tapisseries. Souvent, elle regardait une grande armoire lui faisant face et sur laquelle étaient peintes, dans la manière de boucher, des potées d'amour et des bottes de rose. L'armoire aux confitures, comme nous l'appelions Clotilde et moi, était le paradis de nos rêves. Il nous semblait que de bonnes fées confectionnassent la nuit les excellentes choses que grand-mère nous donnait le matin. Seulement, elle seule en avait la clé, et les domestiques racontaient que personne au monde, pas même mon grand-père, n'avait pénétré dans l'armoire aux confitures. Quelquefois, quand bonne maman allait nous chercher une friandise, elle laissait la porte ouverte et nous contemplions, bouche béante et yeux écarquillés, les pots de groseille, les vertes mirabelles et les abricots d'un si beau jaune, avec leurs amandes tout entières. Mais le bonheur est chose éphémère, nous l'apprit bientôt à nos dépens. On mit ma sœur en pension. Et moi, je fus envoyée à Paris, chez les Jésuites. J'y restai quelques années, revenant fort peu à Nantes. Puis mon grand-père mourut. Et enfin, un jour, je reçus une lettre me disant que grand-maman était au plus mal et qu'il fallait me hâter pour la voir encore. Hélas, j'arrivai trop tard. Je ne pus que marcher derrière son cercueil, les yeux gros de larmes et le cœur brisé. Au retour de la funèbre cérémonie, je courus m'enfermer dans sa chambre et en sanglotant, je touchai tous les objets dont elle aimait à s'entourer. Pendant que je me désespérais ainsi, quelqu'un me mit la main sur l'épaule. Je relevai la tête. C'était Baptiste, le vieux valet de chambre de ma grand-mère. « Monsieur le vicomte, me dit-il, il ne faut pas tant pleurer, vous êtes un homme maintenant, ayez un peu de courage. »« Je vous apporte les clés que madame la marquise ne quittait jamais. »« Les voilà toutes. »« La clé de l'armoire aux confitures aussi, m'écriai-je vivement. »« Certainement, c'est la petite, si bien ciselée. »« Allons, monsieur Raoul, visitez tout, allez partout. » Vous êtes le maître ici aujourd'hui. Il sortit et je restai seule, devant la fameuse armoire dont je tenais la clé dans ma main qui tremblait. Mon cœur battait à se rompre. Tous mes souvenirs d'enfance se levaient devant moi, comme une troupe d'alouettes s'envolant des blés, et venaient me murmurer la chanson de la jeunesse heureuse. Elle était donc là, l'armoire aux friandises exquises, aux choses extraordinaires peut-être. Je n'avais qu'un geste à faire, et comme la célèbre caverne pleine d'or, le sésame s'ouvrirait. Vlan, elle est ouverte, l'armoire aux confitures. Rien. De la poussière, beaucoup de poussière. Quelques pots de marmelade oubliés, des abricots surtout, et je les aimais follement. Aussi me disposais-je à les emporter, lorsqu'en tirant la planche à moi, ma main rencontra un gros bouton de cuivre. Je m'arrêtai étonné, puis je poussai le bouton de toute ma force. Le panneau du fond glissa comme sur des roulettes, et je me trouvai dans un adorable réduit coquettement disposé. Un divan, des chaises de satin Louis XV, des tentures de damas et, accrochées à la muraille, deux pastels un peu passés de ton, d'une finesse exquise. D'abord, une tête de jeune femme, brune, avec des yeux bleus, d'un bleu outre-mer, ineffable et troublant. Le sourire, un peu égrillard, laissait voir les dents de perles, et les épaules nues, potelées, à fossettes, se cachaient sous une écharpe de gaze, ne dérobant pas grand-chose. Je reconnus, ou plutôt je devinai ma grand-mère à 20 ans. L'autre portrait était celui d'un beau jeune homme à fière moustache, à l'œil doux, un peu voilé. Soudain, j'entendis parler tout contre moi. On donnait un ordre à un domestique. La voix semblait sortir de la tenture. Je la soulevai, il n'y avait rien. Alors je compris tout. Dans l'hôtel voisin devait se trouver aussi un bouton de cuivre, faisant basculer une porte, donnant dans la jolie cachette que je venais de découvrir. Je me rappelais avoir ouï parler de la douleur de ma grand-mère, à la mort du voisin, tuée à la chasse, très jeune. Et je m'expliquais l'armoire dont bonne maman seule avait la clé. Je jetai un dernier coup d'œil sur ces meubles qui avaient dû être témoins de tant d'amour, de tant de baisers. Je traversai l'armoire aux confitures sans songer à mes abricots. Et j'en refermai pieusement la porte en me jurant de ne plus en franchir le seuil. Rentré dans la chambre de grand-mère, je tombai dans une rêverie profonde. Elle m'apparut belle, désirable avec ses lèvres friandes et ses beaux yeux énamourés. Il me semblait que je l'aimais davantage, cette adorable marquise du XVIIIe siècle, qui allait à la messe en lisant Diderot et Voltaire, et servait Dieu, sans oublier de brûler un grain d'encens au diable. Et pendant ce temps, le soleil entrait à flots. Il illuminait les vieux cadres, faisait danser les glaces, gambadait sur les tapis, mettait des lueurs d'incendie contre les vitres. Tout à coup, il monta un peu et arriva au portrait de grand-père. Alors je l'ai vu, oui, je vous le jure, je l'ai vu, comme je vous vois. Il planta 2 rayons d'or sur la tête de mon vénérable aïeul et les campa si drus et si fermes que je m'écriai en joignant les mains. « Oh, bon papa, ne vous fâchez point, il y a si longtemps. » Les cauchemars d'une comédienne. Il l'attirait, ce bohème d'esprit détraqué, ce journaliste un peu fou qu'on disait perverti, affamé de défendu, avide d'impossible. Et elle, la comédienne, acclamée, la grande chercheuse, la friande d'extraordinaire, elle arrivait au tourbillon parisien pour lui tendre la main et rire de ses propos sans queue ni tête. Elle montait à la rédaction du journal, lui laissait une fleur, un regard provoquant. Puis, de sa longue traîne balayant les marches poussiéreuses, elle s'enfuyait avec son frou-frou de soie et de dentelle. Alors que, penché sur la rampe de l'escalier, il lui criait qu'il l'adorait pour tout de bon. Ils ne s'aimaient pas et ne songeaient guère l'un à l'autre. Elle, tout à son art, applaudie, entourée, vivant au milieu des encensoirs qu'agitaient les artistes et les grands seigneurs, ces deux classes de la société qui ont fini par n'en faire qu'une. De retour dans son joli hôtel, elle ne pensait plus aux journalistes. D'ailleurs, elle ne cachait pas son mépris pour ces arrangeurs de mots, ces faiseurs de phrases qui ont établi le potin à la hauteur d'une mission et font de l'indiscrétion en amour surtout, la première de toutes les vertus. Quelquefois, elle allait au journal, donnait des poignées de main à l'aventure et s'en retournait, ayant oublié de demander après lui. Mais voilà qu'il se produisit un phénomène étrange. Elle s'endormait dans son grand lit de satin, ses cheveux blonds épars sur les dentelles de l'oreiller, et il lui apparaissait, non plus avec son air de viveur ennuyé, bâillant au milieu de la fumée des cigares, mais jeune, charmant, irrésistible. Couché à ses pieds, il lui disait des choses exquises et absurdes de la passion palpitante. Et elle donnait ses lèvres à des baisers fous, et son corps se tordait dans de délicieuses étreintes. Elle s'éveillait furieuse, pleine de honte. Elle ouvrait sa fenêtre et livrait ses épaules et ses bras au vent frais du matin. Puis, recouchée et songeuse, elle faisait des efforts pour éloigner le fantôme qui, de nouveau, venait l'enlacer et l'emporter en des ivresses inénarrables. Au milieu de son existence enfiévrée, elle n'avait jamais aimé. Sortir de sa morne indifférence était le plus cher de ses désirs. La terre promise plus belle que le paradis, plus enviable que la fortune et la gloire. Elle eût donné sa vie même pour sentir palpiter une fois son cœur qui n'avait jamais battu que d'orgueil ou de dépit. Était-ce donc son grand désir d'aimer qui lui ramenait les rêves semblables? Mais pourquoi toujours le même homme revenait-il dans ses transports factices, une douloureuse obsession? Alors elle retournait au journal, lui parlait, un sourire étrange sur les lèvres. Mais il ne voyait rien, lui répondait de sa façon lasse et traînante, et elle sortait, apaisée et guérie, haussant les épaules. Mais la nuit ramenait les mêmes fièvres, les cauchemars adorables de ce désir sans nom. L'homme qui lui était indifférent tout le jour prenait possession de son corps et de son âme quand arrivaient les heures sombres. Et éveillée, le menton dans la main, elle songeait à ces possédés du XVIe siècle, qui, elles aussi, étaient prises dès que le jour s'éteignait. Alors, elle résolut d'exorciser le démon de la façon la plus naturelle. Elle n'avait jamais reçu le journaliste, elle voulut le voir chez elle, de tout près, sachant bien que c'est dans son boudoir qu'une femme apprend ce que vaut un homme. Elle lui écrivit qu'elle désirait lui parler d'une affaire importante et qu'elle l'attendrait le lendemain soir. Il répondit qu'à l'heure dite, il serait chez elle. Elle fit une toilette exquise, elle voulait lui plaire. Et dans son long peignoir de satin blanc, ses cheveux fauves éparpillés en boucles folles, des roses sur sa peau nacrée qui s'offraient éblouissantes, des mules brodées servant de prison à ses pieds de cendrillon. Ses pieds, l'émerveillement de Paris. Elle lui apparut tout à coup alors qu'il s'inclinait devant elle. Ils se regardèrent longuement, étrangement, avec des silences plus éloquents que toutes les paroles qu'on trouve dans les dictionnaires. Elle devenait plus pâle à mesure que ses yeux à lui jetaient des flammes plus phosphorescentes. Et, sans parler, il la tira sur son cœur, cherchant ses lèvres. Et elle murmurait « Mon Dieu, c'est comme dans mes rêves. » Mais tout à coup, la réalité l'étreignit. Cet homme, elle ne l'aimait pas. Un immense dégoût la prit tout entière. Elle bondit loin de lui, et se rejetant en arrière, elle dit fièrement « Ne faites plus un pas vers moi, je vous le défends. Je vous jure que je ne veux pas. J'ai eu un instant de folie, oubliez-le, et sortez, sortez, ou j'appelle. » Mais il était pris du désir fou qui fait les brutes, et avec un rugissement, il s'élança. Alors, prise d'épouvante et n'osant passer devant lui pour aller jusqu'au cordon de la sonnette, elle arracha du mur un poignard japonais qui formait panoplie avec d'autres armes et des cravaches, et d'un geste tragique, brandissant la lame affilée, « Si vous avancez, je vous plonge ce poignard dans le cœur. » Mais il haussa les épaules avec un ricanement, et les lèvres sèches, les yeux enflammés, il se jeta sur elle, lui tordit les poignets et fit tomber l'arme sur le parquet. « Je n'aime pas, dit-il sourdement, les femmes qui jouent la comédie à la ville. Je ne veux pas qu'on se moque de moi, et je me venge quand on me chasse. » Et à son tour, il éleva la main contre le mur. Mais au lieu d'un poignard ciselé, il se saisit d'une cravache. Et avant qu'elle eût pu faire un geste, pousser un cri, il lui cingla par trois fois les épaules. Sa peau de neige, ses bras de marbre se couvrirent de lignes bleuâtres dont le sang semblait prêt à jaillir. Elle était tombée à genoux, tout près de lui. Mais lorsqu'elle vit qu'il prenait son chapeau, se disposant à partir, elle se traîna encore, et toujours rampant, elle lui enlaça fortement les jambes. « Reste, dit-elle d'une voix sifflante, pardonne-moi. Je ne savais pas, mais je ne veux pas que tu me quittes, car je t'aime. Maintenant tu es mon maître. Je suis à toi pour jamais. » Les bottes de Cendrillon. C'était en plein été. Une volupté chaude palpitait au milieu d'un cadre de fleurs follement étalées. Les alouettes sortaient des blés avec des cris d'allégresse, et les roses s'en donnaient à cœur joie, remplissant les chemins et les parterres de leurs parfums troublants. La villa tout entière se blottissait dans les fleurs, comme pour s'y enfouir et se faire oublier. Pourtant, chaque matin, apparaissait à une fenêtre l'adorable tête d'une femme blonde à cheveux courts, très frisés. Ses yeux de bleu et pâle luttaient encore contre le sommeil. Elle riait aux mille roses qui venaient effleurer son charmant visage et lui souhaitaient la bienvenue. Elle les cueillait et les jetait, avec des cris d'oiseaux heureux, à quelqu'un qu'on ne pouvait voir. Peu de temps après, deux jeunes gens sortaient, se tenant par le bras. Le plus âgé des deux, un homme de 26 ans, brun, avec des yeux de velours roux, avait pour son compagnon des attentions passionnées, pleines d'enfantillages exquis. Le plus jeune, qui ressemblait furieusement à la jolie femme aux roses, marchait d'un air crâne, tout à fait drôle dans son costume de gamin. Sa casquette, d'où sortaient des flots de cheveux d'or, et ses bottes lui montaient jusqu'aux genoux. Oh, ces bottes! Elles étaient si petites et si mignonnes qu'elles eussent chaussé un enfant de 10 ans. Elles couraient côte à côte, heureuses de se sentir libres dans cette campagne verte. Elles sautaient, bondissaient sans crainte des cailloux et des branches. Elles se trouvaient si fières d'emprisonner délicatement les tendres pieds qui, eux aussi, semblaient des pétales de rose. Et le bonheur, un bonheur envié par les anges et par les hommes, planait sur ces deux têtes d'amoureux. Ils se pendaient l'un à l'autre avec des appellations passionnées, se regardant dans les yeux avec extase. Et tout cela finissait par des baisers toujours, un chapelet d'ivresse égrené sans fin. Les caresses succédaient aux caresses, comme si ces affamés d'amour eussent eu à se dépêcher de s'aimer en prévision d'un malheur prévu. Parfois, à l'approche d'une voiture, à l'arrivée d'un passant, ils pâlissaient, se serraient l'un contre l'autre, se reprenant d'une étreinte plus folle, presque douloureuse. Puis ils riaient tout émus et se regardaient longtemps, des larmes plein les yeux. À ce moment-là, les petites bottes se tenaient très tranquilles. Il fallait les tendres discours du jeune homme brun pour qu'elles se décidassent à retrottiner avec confiance. Un jour, tout s'écroula. Une chaise de poste vint s'arrêter devant la grille. Un monsieur, l'air dur, avec les cheveux grisonnants, en descendit, accompagné d'un commissaire de police, ceint de son écharpe. Alors, on entendit dans l'intérieur des cris et des sanglots déchirants. Une voix faible s'élevait, suppliante. Des accents de colère tombaient dans le silence, comme des coups de marteau frappant sans relâche. Puis le monsieur reparut, traînant une femme échevelée qui se tordait les mains en accusant le ciel. Ce matin-là, elle avait un peignoir flottant. Des fleurs de pourpre restaient piquées dans ses cheveux fauves. Des mules de satin, deux ailes de cygne, remplaçaient les petites bottes. On eût dit une rose blanche, arrachée de sa tige par une main furieuse. Le commissaire contenait le jeune homme ivre de fureur et poussant des cris de rage impuissante. Puis, tout à coup, il se tut, haletant, dompté. Dans le jardin, elle lui parlait, elle l'appelait, le nommant sa vie et son espérance, lui disant adieu en ce monde, le suppliant de ne pas chercher à la venger. Puis, bientôt, la voix de l'amoureuse désolée se perdit dans le bruit des roues, s'éteignit tout à fait. Alors, l'amant resté seul ne pleura plus. Il sortit de la maison, pressant fiévreusement contre lui les bottes de sa chère Cendrillon, le seul objet qu'il emporte dans sa fuite. Il referma la grille avec un gémissement sourd, et après avoir collé ses lèvres sur la serrure qui avait gardé son bonheur, il disparut dans le chemin. Il y a quelques jours, à la salle des ventes de la rue Drouot, en visitant les objets d'art, les tableaux de maîtres, les riches épaves des cocottes tombées, les ustensiles des pauvres arrivés à l'extrémité dernière, on découvrait un sombre coin où l'on avait jeté une paire de bottes froissées et meurtries. Elles se tenaient serrées l'une contre l'autre, honteuses et tristes. Couvertes de poussière, les jolis talons presque déformés, elles gisaient là, toutes mignonnes, dans ce lamentable cimetière d'objets sans nom, de loques dépareillées, de friperies bizarres. Elles n'attendaient plus rien du sort. Quel pied eût pu s'y glisser? Si le marquis de L fût entré dans cette salle, Peut-être eût-il reconnu la chaussure de conte de fées. Mais il est sombre et sévère et ne va plus aux ventes depuis qu'il dit partout que sa femme est malade en Italie. Vous vous souvenez de la marquise, n'est-ce pas? L'an dernier, tout Paris lui faisait la cour et le chroniqueur mondain d'un grand journal parlait chaque jour de ses toilettes merveilleuses et de son sourire enchanteur. À la prison Saint-Lazare, dans ce lieu résumant à lui seul tous les cercles de l'enfer de Dante, il y a une jeune femme pâle qui lui ressemble. Si vous la rencontrez, détournez les yeux de cette ombre désespérée, à laquelle les vivants n'ont plus rien à dire. Gardez-vous de chercher à savoir si c'est là l'amoureuse adorable de la fenêtre des roses, le gamin rieur qui courait après les papillons et après l'amour, de toutes les forces de ses petites bottes. Requiescat in pace pour Cendrillon. Le Purgatoire. Par un beau jour d'été, alors que les jardins sont des bouquets, que les flèches d'or criblent le feuillage et que les roses énormes envoient leur parfum comme des encensoirs, l'âme de la petite marquise Réginalde quitta son joli corps de satin et s'envola vers les sphères éternelles, tout éblouie des magnificences qu'elle rencontrait en chemin. La marquise n'avait pas quitté la terre de son plein gré. La vie lui semblait bonne. Elle était très courtisée, on satisfaisait ses moindres caprices, et ce grand inconnu lui causait une insurmontable terreur. Pour se distraire, elle réfléchissait, ce qui ne lui était jamais arrivé jusque-là. « J'irai très certainement au paradis, » se disait-elle. « Il n'y a que les petites gens pour tâter du purgatoire. Ils seront trop heureux, là-haut, de recevoir une femme de mon rang. Ensuite, le père Vincent, qui m'a confessé ce matin, a dit au marquis que j'étais un ange et m'a donné l'absolution de tous mes péchés. Allons, allons, du courage. » Pourtant, elle était un peu tremblante, la pauvre âme, lorsque, dans son vol, elle arriva à la porte du paradis. Elle frappa timidement et Saint-Pierre, le concierge, comme chacun sait, vint ouvrir et lui demanda assez poliment son nom. « Je suis la marquise Réginalde, » répondit-elle fièrement. « Et vous osez vous présenter au ciel ?» reprit Saint-Pierre, dont les sourcils se froncèrent dans ce lieu des célestes béatitudes, où il n'arrive que des âmes blanches, en état de grâce. « Mais qu'ai-je donc fait ?» demanda la pauvrette, un peu troublée. « Malheureuse !» reprit le portier sacré avec indignation. « Avez-vous oublié Gaston et Octave et Paul et Émile ?» C'est étonnant, pensa la marquise, comme ces gens-là sont peu au courant des choses d'en bas. Ils ne se doutent pas que tout cela est reçu dans notre monde. Hélas, dit le saint, la terre impie appelle les adultères d'adorables peccadilles. Mais nous, nous sommes sans pitié pour ces crimes abominables. Pourtant, dit encore Réginalde, qui avait un lambeau d'érudition, vous avez écrit quelque part, à celle qui a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné. Oui, madame la marquise, mais vous n'avez pas aimé une minute de votre vie. L'amour est passé par ici hier au soir, nous annonçant votre visite, et ajoutant que probablement vous mettiez son nom en avant parce que vous l'avez souvent prononcé. Mais il paraît qu'à votre appel, il ne s'est jamais dérangé. Alors, reprit la pauvre âme, qui se serait tordu les bras si elle en avait eu encore. Il me faudra donc aller en purgatoire. En purgatoire ? S'écria Saint-Pierre d'une voix terrible. Nenni, ma belle, il vous faut aller en enfer. Vous l'avez mille fois mérité. À ces mots épouvantables, il se fit un grand tumulte. De tous côtés, on accourut. Les anges, les dominations, les séraphins, les chérubins, les archanges et les élus voulaient voir l'âme qui allait brûler dans les flammes éternelles. Et le rire de Satan arriva directement aux oreilles de la marquise, épouvantée. Il y avait une foule énorme. Les damnés étaient enchantés d'avoir une grande dame de plus dans leur rôtissoire. Les bienheureux flairaient une distraction à leur sempiternelle extase. Et la pauvre âme affolée songeait à l'absolution du père Vincent, aux tendresses de Gaston, d'Octave, de Paul et d'Émile, et faisait des réflexions philosophiques. Combien tout est mensonge sur la terre! Mais voilà que tout à coup, au moment où le pied fourchu arrachait un cri d'horreur à tous les assistants, on entendit un grand bruit d'ailes. Et un ange, beau comme le jour, ne ressemblant en aucune façon à ceux dont parle André Heine, qui n'ont que la tête, apparut en étendant la main. Arrêtez, s'écria-t-il, d'une voix empruntée à la lyre de David. Je viens de voir le bon Dieu. Il fait grâce à une condition. Laquelle ? Laquelle ? S'écrièrent les assistants, consternés de la façon dont tournait l'aventure. Si la marquise a, dans le cours de sa vie, donné un baiser sincère, un seul, elle entrera dans le purgatoire. Satan se remit à rire. Le paradis se pâma de joie et Réginalde perdit l'espérance. Depuis qu'elle avait quitté la terre, elle comprenait ce que valaient ses tendresses. Alors, le fond s'ouvrit comme dans un décor d'opéra et la campagne ensoleillée apparut. La rivière miroitait sous les arbres en fleurs. Sur la rivière, dans une barque, un jeune homme et une jeune fille avaient laissé les avirons aller à la dérive et se tenaient les mains enlacées. Les cheveux blonds de la femme frôlaient la bouche de l'amoureux qui la regardait avec extase. Le ciel était gris et doux. Un oiseau chantait sur le bord d'un nid. L'eau coulait avec un bruit de chuchotement indiscret. La jeune fille laissa tomber sa tête alanguie sur l'épaule de son compagnon. Celui-ci lui baisait les cheveux, les yeux, et descendant encore un peu, colla ses lèvres sur les lèvres rouges qui s'offraient. « Mais c'est moi !» s'écria Reginald, pendant que tout disparaissait dans l'ombre. « C'est moi et le fils de notre intendant. Je sortais du couvent. Depuis, je l'ai fait chasser. » « Eh bien, marquise, ce baiser-là vous arrache à l'enfer. » Ah, si j'avais su, soupira l'âme de Réginalde, pendant qu'on lui ouvrait la porte, et qu'elle se remettait à rouler dans les espaces, cherchant le chemin du purgatoire. Madame Hector. Elle était folle de son comédien et ne pouvait le cacher. Allant le voir jouer chaque soir, pâle et frémissante, les joues couvertes de larmes, les mains crispées nerveusement sur le velours de la loge. Mais aussi, il était beau et charmant et superbe. Les femmes restaient pâmées derrière leurs éventails, alors que les éclats de sa voix puissante jetait les notes de la colère et de la jalousie. Dans le dialogue amoureux, il faisait palpiter tous les cœurs d'une volupté pleine de tendresse. Et quand, avec des gestes enthousiastes, il parlait de vertu et d'honneur, les hommes applaudissaient, sentant naître en eux quelque chose de bon et de fier. On citait les grandes dames qui s'étaient compromises pour Hector, et deux comtesses, de celles dont les journaux mondains citent les toilettes et les faits, s'étaient souffletées dans les couloirs du théâtre, s'attribuant toutes deux un sourire tombé des lèvres du comédien. Elle savait tout cela, la baronne. Elle savait aussi qu'il était marié et que sa femme, toute jeune et de conduite régulière, vivait à l'écart, triste peut-être, mais en tout cas résignée. Hector avait été flatté de l'amour de la baronne, parce qu'elle était plus jeune et plus belle que toutes les patriciennes qui lui faisaient tenir par le concierge du théâtre des billets enflammés. Et lorsqu'elle avait consenti à le recevoir, elle le crut véritablement amoureux, tant ce comédien, aussi beau à la ville qu'à la scène, avait le don de faire vibrer toutes les cordes de l'âme. Ce fut un joli amour, tout plein de mystères et de rendez-vous exquis. Un peu avant la fin de la représentation, elle s'en retournait. Quelques instants plus tard, une femme de chambre discrète faisait entrer Hector par la petite porte du jardin de l'hôtel et l'amenait dans le boudoir où le souper était servi. C'était charmant ce fin repas où seule la grande dame le servait, buvant dans son verre, assise sur ses genoux, s'enivrant à la voix sonore où les airs sonnaient comme des fanfares. Les heures s'écoulaient au milieu des baisers pépiant comme des oiseaux familiers, et les serments, les tendres bouderies, les ivresses inénarrables voyaient poindre le jour dans ce nid de satin dont une immense fourrure noire cachait le tapis. Cela durait depuis un mois et la baronne, qui savait pourtant bien que les amours sont plus éphémères que les papillons, regardait les semaines s'envoler, sans qu'Hector eût l'idée de nouvelles conquêtes. Puis elle était sûre d'être belle et spirituelle parmi les reines de Paris. Pourquoi donc cesserait-il de l'aimer? Un jour, pendant qu'elle s'habillait, on lui apporta une carte. Une dame demandait à la voir. Sur la carte, en caractère très fin, était gravé le nom de Madame Hector. Elle devint pâle. « Vous avez fait entrer cette personne dans le petit salon ?»« Oui, madame la baronne. »« C'est bien. Dites-lui que dans 5 minutes, je suis à elle. » Elle acheva sa toilette, en proie à une angoisse. Elle avait oublié l'existence de cet infime rival, mais rival légitime après tout. Que voulait-elle ? Faire du scandale, sans doute, ou, se jetant à ses pieds, la supplier de lui rendre son mari. L'image du vitriol et du revolver passait aussi devant ses yeux troublés, et elle se voyait, sanglante, défigurée, la fable de Paris. Mais comme elle était vaillante, elle s'écria « À la grâce de Dieu !» et entra résolument dans la pièce où l'attendait Madame Hector. Elle n'avait pas l'air bien terrible, la femme du comédien. Toute jeune, mignonne, avec de beaux cheveux blonds et des yeux bleus très doux. Elle se tenait assise, modestement vêtue, sans effronterie et sans embarras. De toute sa personne se dégageait un charme de pureté et de tranquillité simple. Certes, ce n'était pas là une rivale à craindre. « Puis-je savoir, madame, dit la baronne avec un peu de hauteur, ce qui me procure le plaisir de vous voir chez moi ?»« Madame la baronne, répondit froidement madame Hector, Depuis un mois, vous êtes la maîtresse de mon mari. » La baronne se leva toute droite. « Vous en avez menti, » s'écria-t-elle d'une voix étouffée. « Votre jalousie vous empêche de vous souvenir à qui vous parlez. » « Ma jalousie ?» interrompit la jeune femme, en ouvrant, étonnée, ses grands yeux. « Mais nous ne nous entendons plus du tout. Il ne s'agit pas de jalousie, vous savez bien, madame la baronne, pourquoi je me permets de vous déranger. » « Moi, je ne vois pas. Tous les mois, j'apporte ma petite note, et si vous voulez y jeter les yeux, vous verrez que tout est compté très consciencieusement. » « Mais quelle note ? Que signifie ? Qu'est-ce donc que je vous dois ?»« Mon mari, en un mois, a soupé ici 10 fois, » reprit la jeune femme avec tranquillité. « Mais quelle note ? Que signifie ? Qu'est-ce donc que je vous dois ? C'est 10 000 francs que vous nous devez. » « 10 000 francs ? » balbutia la baronne, stupéfaite. « Oui, 10 000 francs, 1 000 francs parfois, c'est le tarif. »« Oh, mon Hector a beaucoup d'ordre et nos livres sont très bien tenus. »« Cependant, si vous aviez à me faire une objection, je me fie à votre honnêteté comme vous pouvez vous fier à la nôtre. »« Je serais désolée de demander plus qu'il ne nous est dû. » « Non, non, madame, » répondit la baronne avec un geste de dégoût. « Je vais vous chercher vos 10 000 francs, le chiffre est exact. » Elle sortit quelques minutes, puis revint tenant une liasse de billets de banque qu'elle remit à madame Hector. Tout à coup, « Avouez, chère madame, que tout ceci est du dernier comique. »« Pourquoi ?» dit la mignonne créature. « N'est-il pas juste que de grandes dames comme vous payent très cher les célébrités ?»« Je vais de ce pas chez la duchesse de V, qui nous redoit 5 000 francs. » La baronne s'était laissée tomber sur un canapé en riant nerveusement. Et comme l'autre prenait congé avec son air de bourgeoise honnête, « Pardon, madame, un seul mot, » fit-elle encore. « Mais vous, vous êtes jeune et charmante, vous aimez votre mari. » « Madame la baronne, » répondit madame Hector avec un sourire, « ne savez-vous donc pas que les marchands ne doivent jamais abîmer leurs marchandises ?» Fraises au champagne. Gaston était à l'opéra. Il s'ennuyait. On donnait Tibère le diable et l'amour paternel de Bertram et les exhortations vertueuses de la gentille Alice le faisaient bâiller en mesure. Il songeait à aller finir la soirée à son cercle lorsqu'en levant les yeux vers la loge de la comtesse de Troublemont, il la vit lui faire un signe qui signifiait clairement « Montez, il faut que je vous parle. » Et il monta. Il y avait dans la loge 3 femmes et 2 hommes, la comtesse et son mari, une marquise italienne accompagnée d'un monsieur qu'elle appelait mon cousin, et enfin une princesse russe que Gaston n'avait jamais vue. Celle-là était seule. Comme il saluait ces dames, la comtesse lui dit « Monsieur de Rigny, il faut que vous soyez des nôtres. Après le théâtre, nous désirons aller prendre des fraises et du champagne au cabaret. Et voici mon amie, la princesse Vanda, qui n'a pas de cavalier. Voulez-vous être le sien ?» Gaston s'inclina, affirmant qu'il était trop heureux. Et en effet, il ne mentait pas. La princesse Vanda était une adorable blonde, de ces fleurs envoyées par la Russie, pour nous prouver que les femmes, ainsi que les plantes rares, n'ont pas besoin de soleil. Sa peau laiteuse, sous laquelle on voyait courir du sang d'un rose de corail, était sillonnée de petites veines bleues, comme ces marbres de Carrare dont on fait des statues exquises. Ses cheveux, dont le lourd poids retombait sur un joli cou plein et gras, avaient les nuances indéfinissables de l'or en fusion. Sa bouche, un peu grande, aux lèvres sensuellement rouges, possédait ces commissures affriolantes qui donnent l'envie d'y planter des baisers fous. Et ses yeux, d'un bleu de bleuet sombre, deux yeux étranges, regardant parfois avec angoisse, parfois avec une stupeur étonnée, restait une énigme qui complétait l'ensemble inquiétant de cette belle étrangère. On laissa Robert très perplexe entre l'enfer et le ciel et on partit gaiement pour la maison dorée. Là, on commanda les fraises et le champagne. Mais ces dames déclarèrent qu'elles mouraient de faim, en avouant qu'une mayonnaise de volaille et une salade de légumes seraient vues d'un bon œil. Gaston s'était placé naturellement à côté de la princesse et il avait pour elle toutes sortes d'attentions galantes qu'elle recevait avec assez d'indifférence. Cependant, ses yeux troublants s'animaient un peu et chaque fois que le jeune homme lui adressait la parole, elle le regardait prise d'une attention singulière. Elle parlait doucement, avec une voix d'harmonica un peu voilée. Elle hésitait, semblant chercher ses mots, et les laissait tomber, tout plein de nonchaloir. Par moments, des gestes brusques faisaient courir des frissons sur les fossettes de ses épaules. Puis, se retournant tout à coup, elle plongeait ses yeux de velours dans ceux de son voisin, légèrement décontenancé par cette bizarrerie de manière. Gaston avait de l'esprit et du meilleur. Pourtant, il restait embarrassé devant cette étrangère, parlant admirablement le français, mais qui paraissait être à mille lieues de lui. Alors qu'il tenait des propos rieurs, elle répondait sérieusement, comme envahie tout à coup par une soudaine tristesse. Et lorsqu'il se mettait au diapason de cette mélancolie tendre, elle éclatait d'un rire perlé qui prenait des accents de flûte. « Pourquoi diable, se disait le jeune homme, jouons-nous aux propos interrompus ? Mais bah, elle est bien belle, à moins pourtant qu'elle n'ait de vilaines mains. » En effet, la princesse avait gardé ses gants et mangeait lentement, un peu gênée par les longs suèdes trop larges qui cachaient une partie de ses bras. Gaston, agacé outre mesure, eût donné tout au monde pour voir les mains de Vanda. Enfin, il n'y tint plus. « Princesse, dit-il à voix basse, j'ai une grâce à vous demander. » Elle tourna vers lui un regard de biche effarouché en tendant la tête. « Eh bien, ajouta-t-il avec une inflexion suppliante, ôtez vos gants. Donnez-moi ce régal charmant de voir vos petites pattes blanches. Le voulez-vous ? » Elle le regarda avec une expression de hauteur méprisante et dit nettement, « Oh, pour cela, non, je vous le jure. » Gaston resta stupéfait. C'était donc là le défaut de la cuirasse. Cette femme adorable avait des mains de cuisinière. Un doigt lui manquait peut-être, ou bien elle en avait six comme les monstres de la foire. Il tombait de son rêve sur le pavé. Enfin, on apporta les fraises. Ces dames s'embarbouillèrent gentiment les lèvres, et la princesse, en écrasant les fruits rouges dans son assiette, tâcha tout à fait ses gants. Elle fit une petite moue de dégoût, et les arrachant, elle les jeta sur le tapis avec un joli rire. Gaston retint un cri de surprise et de joie. Les menottes ravissantes, potelées, avec des ongles roses comme les griffes du diable, aurait tenté Phidias ou Praxitèle. les mains d'Anne d'Autriche qui étaient, disait le duc de Buckingham, les plus beaux joyaux de la couronne de France. « Je comprends, princesse, pourquoi vous ne vouliez pas me laisser voir vos mains. Vous savez bien qu'on ne peut les regarder impunément. » Elle baissa la tête, cette fois, et dit en rougissant, « Oh non, pas encore !» Il ne comprit pas, mais il était heureux. Penché vers elle, il voyait un corsage ouvert et deux nids de satin dans lesquels on avait planté une grosse rose mousseuse, dont le parfum commençait à lui monter terriblement à la tête. Et il lui prenait des envies folles de l'emporter loin pour se jeter à ses pieds en lui disant « Je t'aime ». Les autres riaient de ses mines d'amoureux et, raillant la princesse, lui disaient de se méfier de ce libertin qui en comptait à toutes les femmes. Elle n'écoutait pas. Ses yeux doux et tristes avaient l'air de chercher au loin, comme mignon, la patrie absente, la patrie où fleurissent la fleur de neige et les amours purs. 2 heures sonnaient. Les femmes parlaient de se retirer. On se leva de table, il était temps. Gaston ne savait plus que dire. Wanda semblait prise d'une fatigue douloureuse. Il la suivait des yeux pendant que, devant la glace, elle mettait une dentelle sur ses cheveux d'or. « Eh bien, lui dit la comtesse en s'approchant, elle a donc fait votre conquête, ma pauvre et chère Wanda ?»« Tout à fait, répondit le jeune homme en souriant. Mais elle est étrange. » « Oh, cela tient à son infirmité, elle en souffre bien, allez. » « Son infirmité ? La princesse infirme ? Comment, mon cher ? Vous causez avec elle pendant 2 heures et vous ne vous apercevez pas qu'elle est sourde comme on ne l'est plus. Elle est venue à Paris pour consulter les médecins. Mais il paraît qu'il n'y a pas de remède. Elle n'entendra plus jamais. » Gaston ne répondit pas, et, allant à la rencontre de Wanda, lui offrit son bras, qu'elle prit avec un sourire un peu égaré. Soudain, elle releva la tête avec surprise. Une larme venait de tomber sur sa main nue. « Pardonnez-moi, princesse, cria Gaston, en montrant d'un geste les bouteilles de champagne vides. J'ai le vin triste. Idylle parisienne. La floraison de juin éclatait dans les branches. C'étaient des feux d'artifice de fleurs, des fusées de parfums, des symphonies dans tous les nids. Sous la feuillée, les insectes aux corselets d'or s'envolaient avec des bourdonnements affairés. Les arbres des bois s'entrelaçaient pour former des voûtes sombres, et les hautes bruyères qui cachent les jolis chemins où l'on va deux à deux et d'où s'envolent les baisers sonores formaient des dentelures exquises découpées par les fées de la forêt. Ils cherchaient une place pour se pendre et s'enfonçaient dans le plus épais des taillis, une corde à la main. Par moments, il poussait de gros soupirs, parce qu'il est très dur de mourir par un beau soleil, alors que la terre a une si bonne odeur de sève et que les oiseaux jacassent des choses galantes. Mais il n'en pouvait plus. Il était trop malheureux. Elle l'avait trompé, puis mis à la porte la grande comédienne. Et, comme il avait eu les joies du paradis, il souffrait trop d'en être chassé à jamais. Il arriva à une petite clairière, cherchant toujours une branche propre à son dessin. Tout à coup, il s'arrêta. Une jeune fille, du bout de son ombrelle blanche, agaçait une nuée de fourmis qui fuyaient en désordre. Ses lèvres, deux jolis pots de fraises riaient goulûment. Des cheveux blonds tombaient en frisons d'or sur deux yeux de velours foncé. Et un petit nez mutin s'envolait un peu en quête d'aventures extraordinaires. La voilà, l'aventure extraordinaire. Il lâche sa corde et l'aborde poliment. Mademoiselle, vous êtes ingreuse. Posez une minute, je vous en supplie. Et il tire un album de sa poche, parce que, tout en cherchant le trépas, on ne peut oublier qu'on est peintre et qu'un album de plus ou de moins n'est pas embarrassant pour le dernier voyage. Elle consentit à poser pour le gruse. Et les voilà babillant, tous deux, comme des merles ivres de rosée. Il esquissait la mignonne dans sa robe claire, et elle, tout en continuant sa chanson, venait parfois voir par-dessus son épaule si l'ouvrage avançait. Elle raconta qu'elle habitait la ville voisine chez une vieille tante qui ne s'inquiétait de rien. Elle avait 17 ans et se trouvait être pure comme les lys de la Bible. Lui avoua qu'il peignait dans ses moments perdus et qu'il était prêt à l'adorer dans les autres moments. Il ne prononça pas le nom de la comédienne, ni ne parla de ses souffrances. D'ailleurs, il ne voulait plus mourir puisqu'il aimait Margot maintenant. Puis, il était toujours temps, après tout. L'amour n'est-il pas le plus doux des suicides? Et il adora Margot qui lui donna tout, et toute son âme. Cela dura 3 mois. 3 mois d'ivresses exquises, de longs baisers, de tendresse folle. On roucoulait sur les étangs, dans les bois, au haut des montagnes, au milieu des prairies. Tout était rayons et chansons, surtout la chanson des baisers. Celle-là, l'écho la répétait, du matin au soir. L'autre était bien loin, comme c'était gentil d'aimer cette jeunesse en boutons. Cette sincérité qui sentait bon comme un bouquet. Le diable avait emporté les pensées noires, lui qui d'ordinaire fait envoler les bonnes. On revint à Paris, et ce furent d'autres surprises, des extases nouvelles. Les théâtres, les dîners dans les restaurants où grignotent les femmes à tapage, l'atelier encombré de curieux bibelots, les chimères à ventres énormes, les faïences d'un autre âge, les superbes tapisseries fanées, les toiles jetées pêle-mêle sur les vieux sièges de cuir. Tout cela plongeait l'amoureuse fillette dans des ravissements qui avivaient sa passion et devaient la rendre éternelle. L'amour fait son nid dans tous les coins du monde, et sa litanie se trouve sur toutes les lèvres de 20 ans. Et lui, comme il avait bien fait de ne pas se pendre dans le bois, il comprenait que l'âme est comme la nature, elle ne meurt que pour ressusciter. C'était l'hiver, il faisait chaud dans cet atelier tout capitonné d'amour et d'ivresse. Au dehors, il neigeait et par instants de gros flocons venaient frapper les vitres. Dans son peignoir de satin rose, elle se blottissait contre lui, la mignonne câline. Et ses jolis bras passés autour de son cou, elle lui faisait dire des vers de Musset. La porte s'ouvrit toute grande et une femme entra. Elle n'était plus jeune, mais très parée. Ses lèvres peintes avaient un méchant sourire. « Je viens te chercher, » dit-elle au jeune homme, qui s'était levé en jetant un nom. « Ou plutôt, je te prie de mettre dehors, mademoiselle. » Cette idylle a trop duré. Les amourettes n'ont qu'un temps, mon cher. Sans cela, elles deviennent ridicules. Allons, petite, habillez-vous et sortez. Il m'a plu de quitter mon amant. Aujourd'hui, il me plaît de le reprendre. Elle ôta son chapeau, passa ses doigts dans ses fins cheveux teints de couleur fauve et regarda le peintre avec son sourire de sorcière faisant son charme. Lui, enivré, fou, tendait les bras vers elle avec un cri d'amour que Margot n'avait jamais entendu. Margot le regardait de ses yeux suppliants et pleins de larmes. Elle avait joint les mains et attendait, mais il ne la voyait plus, et elle se retira lentement, sans voix, écroulée, à reculons, comme une bête blessée qui va mourir au loin. Arrivée à la porte, elle se retourna. Il s'était mis aux genoux de l'autre, et elle, de haut, avec un sourire de mépris, elle lui avait renversé la tête et le contemplait. Pourquoi elle l'aimait ? En vérité, c'était un joli groupe. Assis sur un tabouret, il tenait dans ses deux mains ses petits pieds chaussés de mules en velours grenat. Et il la regardait si tendrement de ses yeux bruns, deux fleurs de velours, qu'elle souriait, rougissant un peu. Elle avait relevé les dentelles de ses manches et ses bras nus, moulés dans le marbre, soutenaient sa tête intelligente. Ses cheveux noirs descendaient en ondes épaisses sur un front large comme celui d'un homme. Elle n'avait pas l'air cruel, ni câlin, ni fantasque, ni sensuel. Un regard tranquille, sérieux, une âme sereine, dans un beau corps en pleine maturité. Elle contemplait, sans trouble et sans flamme, cet être très jeune, aux reins forts et souples, à la crinière blonde, courbée devant elle avec l'air d'un fauve dompté. Il ne faisait pas nuit encore. Des traînées de soleil couchant descendaient de l'horizon d'un bleu sombre, venaient illuminer les tableaux suspendus au mur. La table pleine de papier recouverte d'une écriture allongée à lettres minces. Un grand chat noir enfonçait ses griffes dans le tapis et s'étirait, tout plein d'une grâce voluptueuse. « Comment se peut-il faire, ma chère âme, dit-il enfin, que vous aimiez un être obscur tel que moi, un monsieur dont le nom n'est connu de personne, vous, entourée, acclamée comme une reine, vous, la grande Eloa, que les éditeurs couvrent d'or pour ses moindres nouvelles, vous êtes la maîtresse de Paul, je ne sais qui, employée dans une banque quelconque. Je vous l'ai souvent faite, cette question qui, chaque jour, m'effare davantage. » Sans cesse, vous avez souri sans répondre. Aujourd'hui, interrompit-elle en fronçant les sourcils avec une légère marque d'impatience. Aujourd'hui, cher, vous me prenez dans un de mes jours de franchise sincère. Sachez-le bien, les femmes n'ont généralement que des jours de franchise tout court. Et je vais vous répondre, je vous aime uniquement parce que vous êtes jeune. Et comme il faisait un geste d'étonnement, « Oui, vous avez la jeunesse, cette chose merveilleuse qui n'existe plus à Paris. Ce que nous autres, femmes célèbres surtout, nous ne rencontrons jamais. Tout le monde est à mes pieds, dites-vous. Eloa, la grande romancière, a autant d'amoureux que d'envieux et de détracteurs, et ce n'est pas peu dire. » Chaque jour, on lui présente des gens illustres qui viennent grossir son cortège de joueurs de flûte. Mais les avez-vous bien regardés, ces célébrités de toute espèce ? Peintres, journalistes, écrivains, sculpteurs, politiciens, sénateurs et ministres ? Ils sont vieux, ils sont chauves, la barbe a quelques poils gris et rudes, la moustache a l'air d'une brosse à dents de pauvre, les mains ridées, ont plus de grosses veines que les cordages d'un navire continuellement à la pluie. Trois cheveux raides essayent de cacher le crâne luisant et poli comme une boule de cuivre. Les yeux clignent, le nez bourgeonne. Mais Vous en avez de jeunes pourtant. Les jeunes, ah bien oui, vous appelez jeunes ces vieux gommeux de 20 ans, étriqués, crevés, passés au laminoir. La nuit, ils perdent leur argent. Le jour, ils courent après des usuriers qui leur en procurent. Ils ne sont pas chauves, ceux-là. Ils sont clairsemés. Ce qui puis est. Les autres pouvant dire qu'à un moment donné, ils ont eu des cheveux. Puis, ils sont si minces et si grêles qu'un enfant. En les poussant, on les ferait tomber. Ils savent lire et écrire, pourvu qu'on ne leur demande pas trop d'orthographe, et s'intitulent des corrompus, parce qu'entre le bois et la maison dorée, ils vont prendre le menton à une cocotte qui les trompe avec son coiffeur. Jeune, continua-t-elle en s'animant davantage, j'en connais qui ont 25 ans et que les femmes embêtent, c'est leur expression. Ils aiment mieux la bonne chère et le vin vieux. Ils n'ont pas même les amours étranges, chantées par les poètes d'autrefois, celles où le vice vit et palpite. Non, à peine nés, ils sont mornes et blasés. Ce sont les dégoûtés qui ne savent rien. Venus au monde, tout vieux, en têtant leur nourrice, ils n'avaient déjà plus de dents. Et les jeunes arrivés, ceux qui, pleins de talent, devraient être pleins de flamme, ah oui! Parlez-moi de cela. Ils me récitent en prose leur volume de vers, et à mes pieds, ils se souviennent des tirades de leurs anciennes pièces. Pas un geste vrai, jamais un mot sincère. Ces Alahussalem-là font bâiller l'amour. Et Gaston, et Édouard, et Charles. « Ils sont laids, répondit-elle avec une moue de dédain, et les laids ne sont jamais jeunes. » Eh bien, dans mes rêves fous, je me suis dit qu'un jour, j'aurais un jeune à moi, que je regarderais une tête charmante et des yeux purs, que je pourrais baigner mes doigts dans des masses de cheveux bouclés sans art, que je mettrais mes lèvres sur une barbe blonde, douce comme des pétales de fleurs, que je sentirais cette haleine tiède des adolescents dont les dernières dents viennent de pousser, et qu'affolée de tendresse, alors que je lui jetterais mes bras au cou, il ne me ferait pas de récit spirituel comme la veuve Scarron quand le rôti manquait. « Toi, ajouta-t-elle en le montrant d'un geste superbe et passionné, tu es jeune, tu es beau, tu sembles un dieu agenouillé au pied d'une mortelle. » Jamais tu ne me parles de mes œuvres, ni de mon éditeur, ni de mon travail. Ce qu'il te faut, c'est l'amour, incessant, l'ivresse de mes regards et de mes baisers. Toi, tu m'as rendu ma jeunesse et ma beauté. Dans tes bras, je suis une femme, et non plus le monstre hybride qui vole aux hommes les grandes pensées. « Mais, ma bien-aimée, fit-il après un silence, tu es injuste, je m'intéresse à tout ce que tu fais, ton succès, ta gloire. »« Tais-toi, interrompit-elle en lui mettant vivement sa blanche main sur les lèvres. Je t'ai dit que je t'aimais parce que tu es jeune. J'ai oublié d'ajouter que je t'adore parce que tu es bête. » La princesse Scheherazade. Paul entrait chez son ami Jean Hérault le peintre. Comme il n'y avait personne dans l'atelier, il alluma un cigare et examina les toiles restées sur les chevalets et d'autres accrochées à la muraille. Paul était un garçon charmant, un peu romanesque peut-être, mais aujourd'hui, les hommes deviennent d'un positivisme si terrible que ceux qui ont encore le culte de l'idéal sont fort recherchés par les femmes d'esprit délicat. Il aimait Jean Hérault, lui faisait parfois des remontrances amicales sur la façon dont il dépensait sa vie sans compter, cherchant les amours faciles, prêtant son cœur à ses modèles, qui ne le lui rendaient qu'après y avoir fait quelques égratignures du bout de leurs griffes de diablesse. Néanmoins, il lui pardonnait sa maîtresse du moment, la petite Evelyne, une blondette, pas bête, n'empêchant point le travail et mettant dans sa franchise le petit ragoût d'une coquetterie inquiétante. Paul s'ennuyait d'attendre. Il regardait avec indifférence cet atelier, assez semblable à tous les ateliers de peintres arrivés. Vases japonais, armes d'un autre temps, chimères ventrues, tapisseries des Flandres, plats cloisonnés, tout cela n'était pas d'une extrême originalité. Et il bâillait en tirant sa moustache. Il voulut écrire un mot à l'artiste avant de s'éloigner et prit un cahier de papier sur une petite table posée contre une tenture qui, en s'entr'ouvrant, lui montra sur une chaise longue une femme étendue. Elle dormait ou reposait, les yeux fermés. Son adorable visage gardait encore un joli sourire presque enfantin. Ses longs cils faisaient ombre sur des joues rosées comme le bouton d'une fleur. Ses mains blanches étaient croisées sur ses genoux. Un étrange et magnifique costume faisait ressortir ses cheveux d'un noir de jais, formant une auréole de boucles tout autour d'elle. Elle était vêtue de brocart, un pantalon large, de lampas brodées d'or, s'arrêtait à ses petits pieds, chaussés de mules entremêlées de perles. Ses seins, d'une délicieuse rondeur, restaient moulés dans une veste de satin, surchargée de pierreries. Des fleurs naturelles, mêlées à des séquins, étaient piquées dans ses cheveux. Paul resta frappé de surprise, s'avouant qu'il n'avait jamais vu de femme aussi parfaitement belle. Il la contemplait depuis quelques secondes à peine lorsqu'il entendit dans l'escalier la voix de Jean Hérault. Ne voulant pas être pris en flagrant délit d'indiscrétion, il sortit du réduit où le peintre mettait sécher ses couleurs et laissa retomber le rideau de velours. Jean entra, suivi de sa maîtresse. Mais bientôt, il ressortit pour une affaire pressée, laissant Paul et Evelyne ensemble. Alors, le jeune homme, souriant et un peu troublé, s'approcha de la petite fille et lui montrant de la main la tenture sombre. « Je l'ai vue, » fit-il à voix basse. « Elle est bien belle. » « Dites, Evelyne, qui est-elle? D'où vient-elle ?» La jeune femme le regarda un instant avec un sourire moqueur. Puis, après avoir passé cette étrieuse à travers la portière, elle revint vers Paul. « Chut !» dit-elle en mettant un doigt sur ses lèvres. « Elle dort. » Sans parler, il joignit les mains avec un geste suppliant. « Eh bien, ajouta-t-elle, c'est la princesse Scheherazade. »« La princesse Scheherazade ?»« Oui, c'est toute une histoire. Nous l'appelons la princesse Scheherazade parce qu'elle a l'air d'une sultane des mille et une nuits. »« C'est une pauvre fille qu'on a vendue dans son pays. Elle est venue en France, on ne sait comment, et quelquefois elle consente à poser pour Jean. » « Mais ce n'est pas un modèle, » s'empressa-t-elle d'ajouter à un mouvement de Paul. « Il paraît que c'est une vraie princesse de là-bas. Elle arrive du sérail du sultan. Je ne sais plus quel sultan, mais Jean vous expliquera peut-être cela, quoiqu'il n'aime pas en dire long sur la princesse. Il sera contrarié que vous l'ayez vue. Mais enfin c'est fait, il n'y a plus à y revenir. » Paul resta quelques jours sans retourner à l'atelier. La créature charmante qui lui était apparue hantait son imagination lâchée à toute bride. Ce mystère le prenait comme un rêve enchanté. Il songeait avec ravissement qu'il reverrait la princesse, qu'il lui parlerait peut-être. Enfin, brusquement, il interrogea Jean Hérault.
« Bah, répondit celui-ci avec contrainte, ce sont là des contes d'Eveline. Cette petite fille est folle. D'ailleurs, la princesse est partie, ne t'en inquiète plus. »
Paul ressentit un coup au cœur et ne répondit pas. Il sortit et, arrivé dans la rue, il leva la tête vers les fenêtres de l'atelier. Il devint pâle en apercevant la belle étrangère. Cette fois, elle ne dormait pas. Ses yeux bleus de velours sombre regardaient le jeune homme. Palpitant, éperdu, il la salua. Et à sa grande surprise, elle s'inclina, lui rendant son salut. « Il la cache !» s'écria-t-il. « Mais je saurai ce que tout cela signifie. Je l'enlèverai s'il le faut, car je l'aime. » Et en effet, il l'adora. Tous les jours, il passait pour la voir. Elle se trouvait souvent à la fenêtre et par un signe de tête lui prouvait qu'elle le reconnaissait. Il écrivit des lettres qui restèrent sans réponse. Et, ivre, fou, brûlé d'une passion que les obstacles et l'étrange rendaient chaque jour plus envahissante, il résolut de s'expliquer avec Jean Hérault et de mettre loyalement son bonheur entre ses mains. Un matin, il monta à l'atelier. Comme le jour où il avait vu la princesse pour la première fois, il n'y avait personne. Le petit nègre, faisant office de valet de chambre, s'était retiré après avoir apporté des cigares et des journaux. Et il resta seul, les yeux fixés sur la tenture de velours qui lui cachait, peut-être, l'adorable enfant dont son âme était pleine. Tout à coup, d'un mouvement brusque, il écarta les rideaux et resta muet, chancelant sur le seuil. Scheherazade était là, devant lui, assise sur la chaise longue. Elle tenait dans ses mains sa tête divine. Ils se trouvaient seuls, tous deux. Il pouvait lui parler, enfin. « Madame, dit-il, en mettant un genou en terre, dans un instant on viendra. Laissez-moi donc vous dire que je vous aime et que ma vie vous appartient. » Nulle réponse ne se fit entendre à ces mots prononcés d'une voix passionnée. La princesse ne bougea pas. « Madame, reprit-il en suppliant encore, un mot. Un geste, par grâce, par pitié. Je ne veux pas vous déplaire. Je suis à vos pieds, votre esclave. » Mais elle ne paraissait pas l'avoir entendu. Aucune secousse ne faisait tressaillir ce beau corps. Alors Paul se leva, et hors de lui, la tête perdue, avec un sentiment où il y avait de l'amour et de la rage, il la saisit violemment par le bras et lui appliqua les lèvres sur les siennes. Mais il jeta un cri d'horreur. Son baiser avait rencontré une bouche dure et glacée, et il se recula avec épouvante devant deux yeux d'émail qui le regardaient fixement. Alors, il se fit dans son cœur une clarté brusque, déchirante. Comprenant enfin l'espièglerie terrible d'Evelyne, la complaisance pleine de contraintes du peintre, il sentit ses jambes se dérober sous lui et vint rouler au pied de la poupée, dont la main articulée s'abattit sur sa tête avec un bruit sec. Dernière volonté. Quand je verrai la mort venir, qu'on ouvre le coffret rose, et sur ma lèvre à jamais close, qu'on mette le cher souvenir. Tilda. Raoul l'aimait follement, de cet amour qui prend les hommes à 20 ans ou à 60,
et dont le dénouement bronze les uns et brise les autres. Elle n'aimait pas. Elle estimait son mari. Assez pour ne le tromper qu'avec une grande passion pour excuse. Et cette passion n'était pas venue. Sa beauté blonde faisait rêver aux choses tendres et éthérées. Sa mignonne personne, faite de sourires et de grâces chastes, rappelait les pastels de la tour qu'on dirait effacés par les baisers amoureux. Elle le plaignait de tant l'adorer, mais, naïvement cruelle, elle lui laissait voir son cœur paisible et parlait d'amitié. Enfin, comme il souffrait beaucoup, il voulut s'éloigner et vint lui faire part de sa résolution. Un jour, qu'elle déjeunait seule, son mari étant absent pour quelques semaines. Elle l'approuva, fortifia ses bonnes intentions par toutes sortes de phrases abominablement amicales, et lui demanda quand il comptait partir. Ce soir même. Alors je ne vous aurai pas lundi, c'est le jour de ma fête. Tous mes amis m'apporteront des fleurs. Je le sais, madame, et je vous supplie d'accepter aussi mon humble cadeau. Lundi soir, vous le recevrez. Il partit, et elle le suivit des yeux avec un soupir. C'était peut-être la poésie de sa vie qui s'envolait. Le lundi arriva, tout joyeux, chargé de présents. Amis et amoureux vinrent danser et papillonner. Elle était radieuse et donnait des poignées de main et des baisers avec sa grâce tranquille. Vers minuit, on vint lui annoncer qu'il y avait dans l'antichambre une immense caisse à son nom. Les invités réclamèrent la caisse avec des exclamations de joie. Et on apporta au milieu du salon une énorme boîte de velours rouge, fermée par un crochet en or. En souriant, elle mit sa petite main sur le crochet et ouvrit la boîte. Raoul, mort, était couché sur des oreillers de satin. Sa pâleur livide ressortait parmi tout ce rouge. Il avait les mains jointes et dans ses doigts tenait un papier plié. Ce furent des cris d'horreur. Les femmes s'évanouirent. Les hommes sortirent le cadavre de sa tombe du satin et le couchèrent sur un divan. Le marquis de R prit le billet des mains du mort et lut tout haut. Pardonnez-moi, madame, de venir ainsi troubler vos plaisirs. Mais il me faut mourir puisque vous ne pouvez être à moi. Accordez-moi une grâce. Faites ma dernière volonté. Toute seule, veillez-moi, cette nuit entière. Restez près de votre petit Raoul qui meurt, pour vous avoir trop aimé. Oh oui, s'écria-t-elle en sanglotant et en se jetant à genoux devant le mort. Mon pauvre cher Raoul, je passerai seule la nuit en prière près de vous. Tous s'éloignèrent. Elle revêtit un peignoir sombre. Ses gens firent un lit de parade sur lequel fut couché le pauvre amoureux. On amoncela à ses pieds tous les bouquets de la fête. Puis elle resta, les yeux fixés sur ce visage charmant que la mort n'avait pas encore défiguré. Elle songeait qu'il l'avait en effet bien aimée. Ses larmes coulaient sur les mains froides de Raoul. Elle le plaignait de toute son âme. Mais elle ne s'accusait pas. En repoussant son amour, elle avait fait son devoir. Vers 3 heures, malgré son ardent désir de veiller jusqu'au matin, elle s'assoupit. Sa tête blonde tomba sur l'oreiller, à côté de celle du mort. Alors, elle eut une sensation étrange. Il lui sembla que des lèvres chaudes se posaient sur ses lèvres à elle. et brusquement elle s'éveilla. Elle se jeta en arrière avec un cri de surprise et d'épouvante. Raoul, debout, la regardait en souriant. « Rassurez-vous, ma bien-aimée, dit-il, je suis bien vivant. Vous m'aviez chassé, et je voulais passer une nuit auprès de vous. » « Mais comment ? C'est affreux, je ne comprends plus. Il faut comprendre que je t'adore et que je te veux. Je t'expliquerai plus tard comment un de mes amis, médecin célèbre, m'a plongé dans cette léthargie qui a tous les symptômes de la mort. Mais les instants sont précieux. Laisse-moi seulement te dire combien je t'aime. » « C'est une lâcheté et une trahison indigne, dit-elle en se tordant les mains. Je serai la fable de Paris. Vous n'avez pas songé à mon honneur. Je suis perdue, sans retour. Non, je vous sauverai, je le jure. Voici mon plan. Je partirai au jour. Vous mettrez un de vos gens dans la confidence et vous direz que vous m'avez fait transporter chez moi. Alors, je me charge du semblant de mes funérailles. Puis, je quitterai Paris et on n'entendra plus parler de Raoul. « Vous mentez !» s'écria-t-elle avec mépris. « Vous mentez encore. Demain, tout le monde rira de l'aventure et vous resterez pour étaler ma honte et mon désespoir. » Mais sans répondre, il lui tendait les bras avec des appellations passionnées. Il l'attirait sur son cœur en des violences qui la gagnaient. Elle lui rendait ses baisers, foudroyée par cette flamme qui passait en elle. « Eh bien oui, » dit-elle, éperdue en lui jetant les bras au col, « tu as raison. Soyons heureux, qu'importe le reste. » Le lendemain, quand le jour fut venu, on entra dans la chambre. Les fleurs avaient roulé sur le tapis. Les bougies s'éteignaient. Elle, toujours à genoux, priait près du cadavre glacé de Raoul. Elle se releva lentement et sortit sans mot dire. Elle avait hâte d'aller jeter au loin le couteau plein de sang qu'elle tenait caché sous sa robe. Une preuve d'amour. Angèle était naturellement charmante et adorable, puisque Pierre l'aimait. Il lui trouvait des cheveux d'or, des dents de perles, des yeux de velours, des lèvres de corail, un teint de camélia, des épaules de marbre, enfin, toutes les billevesées que débite un homme quand il est rudement enfermé dans les lacs du plus malin des dieux. Il était heureux, puisque les autres convoitaient son bonheur. Puis Angèle était si gentille, si câline, si tendre et si finement drôle qu'elle avivait sans cesse, par une foule de mignardises troublantes, cette passion n'ayant d'extraordinaire que de vous être contée. Donc, tout allait pour le mieux dans la plus amoureuse des liaisons. Le matin, on montait à cheval, on faisait en voiture le tour du parc dans l'après-midi, on se becquetait le soir dans les avant-scènes, c'était délicieux. Un plein voyage sur le fleuve du Tendre, sans jalousie, sans querelle. Une banderole d'azur implacable servait de voile à la barque et l'amour, tapis tout au fond, les ailes coupées, ne bougeait plus. Mais il en est des passions comme des empires. C'est au moment où l'on s'y attend le moins que tout croule. Il faut se méfier des bonheurs sans nuages. Un jour, Pierre, pris d'une folle envie d'embrasser sa maîtresse, et oubliant le sage précepte qui enjoint aux amants et aux maris
de ne jamais arriver à l'improviste chez une femme, fût-elle mille fois la leur, entra dans l'appartement d'Angèle et la trouva en train de faire la dinette avec un joli monsieur dont les moustaches rousses étaient relevées d'un air vainqueur. Assis très près de la maîtresse du logis, le jeune homme, au lieu de manger honnêtement le foie gras qui était sur la table, mordillait les roses nichées dans le corsage de la dame. Pierre, fort pâle, étendit le bras et voulut parler. Mais ses jambes se dérobant sous lui, il alla tomber sur une chaise en faisant entendre de sourdes exclamations. Comme rien n'est plus désagréable que d'être surpris en flagrant délit d'amour par un tiers intéressé dans la question, les deux mangeurs de fleurs restèrent un moment fort penauds. Mais Angèle, en sa qualité de femme, se remit promptement et, après avoir dit quelques mots à l'oreille du jeune homme, elle lui apporta son chapeau et le poussa doucement hors de la chambre. En passant devant Pierre, il lui tendit sa carte, l'assurant qu'il était à ses ordres. Le malheureux délaissé mit machinalement le morceau de carton dans sa poche, sans y jeter les yeux. Il était trompé, peu lui importait le nom de son voleur d'amour. D'ailleurs, il se sentait envahi par un engourdissement douloureux qui ne lui laissait plus la force de penser. Agnès vint tout doucement près de lui et avec la câlinerie féroce des femmes coupables qui ne songent pas à se repentir, elle essaya de prendre la main de son amant, mais il se retira comme s'il eût été piqué par une vipère, et retrouvant tout à coup la parole, il se mit à accabler d'injures sanglantes et d'épithètes abominables cette femme adorée à laquelle, la veille, il n'eût parlé qu'à genoux. Elle laissa passer ce flot de colère. Puis, le regardant longuement dans les yeux, elle lui dit avec tranquillité « Mon ami, je viens de te donner une grande preuve de mon amour. » « Oui, » continua-t-elle sur un geste stupéfait de Pierre, « la plus grande preuve d'amour qu'une femme puisse donner à un homme, c'est de le tromper. » « Et ce n'est pas là du paradoxe, je m'explique. » Celle qui consent à mentir, à se faufiler dans la voie pitoyable de la trahison, celle-là seule aime. Il faut qu'elle tienne à lui plus qu'à sa vie. 100 fois mes lèvres ont voulu te crier. Va-t'en donc, ne comprends-tu pas que je ne suis plus digne de cette tendresse sincère? Ne sens-tu pas que je suis à un autre? Mais j'étais arrêtée par l'expression tendre de tes yeux, qui ne voyaient que moi. Ton sourire confiant se serait éteint dans les larmes. Non, non, je ne pouvais rien dire, car la réalité brutale m'apparaissait comme une arme mortelle. Et, sublime et généreuse, je me suis enveloppée dans ma trahison comme dans la robe de Nessus. Jour et nuit, je t'ai aimée. J'ai pris pour te tromper 1000 précautions. J'ai eu 1000 terreurs. Moi, si libre, si fière, j'ai fait cacher mon nouvel amant dans les armoires, comme une fille ayant un monsieur qui la paye. Par grand amour pour toi, je t'ai attaché sur les yeux un bandeau de caresses et d'ivresse folle, alors qu'il m'eût été si facile de te mettre tranquillement à la porte. Comme les êtres trop curieux dans les contes de fées détruisent les talismans qu'on leur a défendu d'ouvrir, tu viens de tout briser. Maintenant, va pleurer loin d'ici. Je ne te retiens plus. Pourtant, encore un mot pour finir. L'amour est le premier de tous les sentiments parce qu'il est involontaire. On peut en simuler les grimaces, mais il sort de toutes les hontes plus pur et plus divin. Il est non pas le fils de Vénus, mais le fils de la vérité. L'amour était là, il s'est envolé, rien n'a pu le retenir, pas même Dieu. Voilà pourquoi tromper est la plus grande preuve de passion qu'on puisse donner en ce monde. Et voilà pourquoi je ne t'aime plus. » Et elle s'assit à table et mit sur son assiette le morceau de foie gras qu'elle avait oublié de manger avec l'autre. Lui l'avait écouté, stupéfait, sans l'interrompre. Son monologue terminé, il vint se mettre à ses pieds. « Angèle, lui dit-il doucement, je n'ai compris qu'une chose à ton long discours, c'est que tu m'aimes encore. Je suis heureux de penser que tu me mentais par amour. Je ne puis vivre sans toi et je n'ai rien à te pardonner puisque j'ai été trompée par les apparences. Oui, oui, mon chéri, par les apparences et non par moi, répondit-elle en éclatant de rire. Alors mes paroles t'ont bien prouvé, n'est-ce pas, que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il joignit les mains par un geste passionné. Et dire, ajouta-t-elle, riant toujours, et se jetant dans ses bras, que l'année dernière, tu étais un homme d'esprit.